are listening to SBS.
Cette annonce est traduite par un interprète certifié Nati.
This ad is interpreted by a Nati certified interpreter.
Avec un interprète certifié, vous pouvez exprimer exactement ce que vous voulez dire en français.
With a certified interpreter, you can express exactly what you want to say in French.
Et ce que vous dites reste confidentiel et inchangé.
And what you say stays private and unchanged.
Parce que nous avons tous le droit d'être compris.
Because we all deserve to be understood.
Demandez un interprète certifié Nati. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nati.au/interpreter.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
8 août 1918. Dans la brume, à l'est d'Amiens, une force alliée massive se tient prête. Ce qui va se passer dans les heures suivantes, personne ne l'oubliera. Les Allemands, encore moins, ils appelleront cette journée la journée noire. Nous sommes en 1918, 4 ans après le début de la guerre. Peu avant, le traité de Brest-Litovsk, signé avec la Russie, permet aux Allemands de transférer des centaines de milliers de soldats vers le front occidental. Dès mars, les Allemands lançaient une série d'attaques, 5 en tout, dont la plus importante est l'opération Michael. Si au départ ils semblent avoir l'avantage sur le cours de la guerre, le scénario va changer de manière surprenante. Les attaques allemandes échouent. Dans un épisode précédent, nous avions parlé de la deuxième bataille de la Marne avec la grande contre-offensive alliée lancée le 18 juillet. Une attaque totalement inattendue qui surprend les Allemands et les met en grande difficulté. Peu à peu, ils perdent du terrain et s'enlisent davantage. Le moral est au plus bas, les approvisionnements manquent et la grippe fait des ravages. L'élan allemand est définitivement brisé. Le 6 août, la deuxième bataille de la Marne s'achève. Le général allemand Ludendorff refuse d'accepter la défaite. Seulement 2 jours plus tard, une nouvelle claque attend l'armée allemande. L'issue de la guerre est toujours incertaine. Du côté des Alliés, les troupes franco-britanniques ne sont pas seules. À leur côté se trouvent aussi des soldats canadiens, américains et australiens. Le 24 juillet, lors d'une réunion des commandants de différentes coalitions, le général français Foch propose de frapper avec une série d'attaques limitées en succession rapide, au lieu de porter un coup décisif contre les Allemands. Le but étant de libérer les lignes ferroviaires vitales autour de Paris. Tous approuvent la stratégie. Alors la veille, de fausses manœuvres se mettent en place pour tromper l'ennemi. Les préparatifs restent secrets pour préserver la surprise.
We traveled at night and stayed in the woods in the daytime. It was supposed to be a surprise.
Dans la nuit, on se tient prêt. Les forces se rassemblent dans la plus grande discrétion. Le vrombissement des avions invisibles dans le ciel masque le bruit des chars d'assaut. La veille, le général Foch est élevé au rang de maréchal. août à 4h20 du matin, l'assaut est lancé à l'est d'Amiens. Ce jour-là, la brume est favorable aux Alliés, elle renforce l'effet de surprise. Une offensive fondée sur une coordination étroite entre infanterie, chars et artillerie. La bataille d'Amiens commence officiellement. Les forces conjointes avancent, presque à l'aveugle, tant le brouillard est dense. Cette force alliée implique notamment la 1ère armée française et la 4ème armée britannique, mais elle est menée par les forces combinées australiennes et canadiennes. Selon certaines estimations, elle compte plus de 400 chars, plus de 2000 pièces d'artillerie et 800 avions. Les positions défensives allemandes à Amiens étaient gardées par environ 20 000 hommes, soit 6 fois moins nombreux que les forces alliées qui avançaient. Et pour la première fois, les 5 divisions de l'Australian Imperial Force combattent sous le commandement d'un officier australien, le lieutenant-général John Monash. Les chars rugissent sur le champ de bataille. Les troupes canadiennes et australiennes sont en première ligne. Elles mènent l'assaut et parviennent presque à percer les défenses ennemies, repoussant les Allemands de plusieurs kilomètres. Les Canadiens réussissent à avancer de 13 kilomètres à travers les défenses ennemies. Ces derniers réagissent rapidement et envoient des renforts sur le champ de bataille pour empêcher la percée. Les combats sont acharnés et meurtriers. Partis de plus loin, les troupes australiennes accomplissent tous leurs objectifs en 2 heures aux côtés des troupes canadiennes. Les lignes ennemies sont submergées. Au total, plus de 27 000 hommes sont capturés ainsi que 338 canons. 116 villes et villages sont libérés. Côté français, leurs offensives connaissent également un grand succès. À la fin de la journée, 25 km du front allemand tombent aux mains des alliés. C'est une victoire. Le général allemand Ludendorff comprend la défaite inévitable de son armée. Il qualifiera lui-même ce fameux 8 août de « jour noir de l'armée allemande ». Durant l'avance, de nombreuses armes sont saisies, mais au prix de lourdes pertes dans les rangs alliés. Une campagne qui, malgré tout, a porté ses fruits. Mais il faut poursuivre les efforts. Du 9 au 11 août, les alliés avancent avec les Australiens en tête. Les pertes sont de nouveau lourdes et les gains territoriaux plus modestes. Pendant ce temps, les forces allemandes se regroupent et avancent dans d'autres zones. On pensait alors que la guerre durerait plus longtemps, au moins jusqu'en 1919, voire 1920. La bataille d'Amiens lance la campagne des 100 jours. Durant tout le mois d'août, les combats se poursuivent. Le lieutenant-général Monash continue de pousser les troupes australiennes vers l'avant. La guerre n'est pas finie. Les offensives alliées se poursuivent. Finalement, dès septembre, Ludendorff ordonne un repli général à l'ouest. L'Allemagne continue de se battre un temps, mais elle se retrouve seule. Le 26 octobre, le général donnera sa démission. Pendant ce temps, la révolution gronde en Allemagne, le départ de l'empereur est exigé. Peu avant la signature de l'armistice, une émeute révolutionnaire et une grève générale éclatent à Berlin. L'empereur abdique le même jour. L'armistice est signé le 11 novembre. Jusqu'aux toutes dernières minutes, les combats font rage. Puis le dernier coup de canon se tait, laissant place aux cloches qui résonnent dans les villes et les villages. Le vétéran Ted Smoot racontait le Paris de 1918 au lendemain de l'armistice au micro de SBS en 2001.
Can you recall, atmosphere of what it was like in 1918. Can you tell us about the Paris of 1918?
Paris of 1918?
Yes.
Oh, well, I went there, the day after the armistice, I went there, and Paris, of course, it wasn't bombed, it wasn't damaged in any way, it's been protected.
Cette série d'attaques rapides, menée entre le 8 août et le 11 novembre 1918, va marquer la fin de la Première Guerre mondiale. La bataille d'Amiens n'est certes pas la plus célèbre de ce conflit, mais elle est considérée comme l'une de celles qui ont véritablement ouvert la voie à la victoire alliée. Elle est régulièrement commémorée en France, mais aussi en Angleterre, au Canada et en Australie.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Ambition is one thing. Making it real is another. That's where Capgemini comes in, helping businesses turn ambition into action, combining AI, technology, and human expertise to solve complex challenges. Delivering transformation that works in the real world. From idea to implementation, we close the gap between intention and impact. Capgemini, proud to be the official technology partner of the Tour de France.